Donc on va continuer ce qu'on a commencé, enfin, qu'on a fait la semaine dernière. On va voir ces chapitres 10 et 11 de l'Apocalypse. Je rappelle, mais je crois que vous en avez déjà parlé là dans les groupes, que nous sommes au milieu d'une série de 7 trompettes. Auparavant, il y avait une série de 7 sceaux. C'était un livre qu'on ouvrait, sceau par sceau. Et j'avais expliqué que au bout de 6 sceaux, il y avait une sorte de parenthèse, intervalle, avant le 7e sceau. Et c'est la même chose avec les 6 trompettes. La semaine dernière, on a vu les 6 premières trompettes. Et maintenant, on a une sorte de parenthèse avec l'histoire du petit livre et l'histoire des 2 témoins avant d'arriver à la 7e trompette. Donc on a le même déroulement de ces 2 séries de 7. Un petit mot, hein, parce que quand on étudie l'Apocalypse, je n'ai pas dit la semaine dernière, parce que bon, je suis rentré dans le mouvement en quelque sorte, mais il est évident qu'au cours de l'histoire, on a essayé d'élaborer comme des schémas pour expliquer tous les déroulements de la fin des temps. Il y en a plusieurs. Moi, je ne vais pas en parler ce soir, mais simplement pour dire que le GBU ne prend pas position ni pour l'un ni pour l'autre. Ce que nous essayons de faire, c'est de regarder le texte et à partir du texte, de voir qu'est-ce qu'on peut conclure à partir de ce texte. Donc, on va observer le texte, on va regarder parfois des allusions à d'autres textes, Ancien Testament, Nouveau Testament, et on va essayer de comprendre au moins le texte qui est devant les yeux pour essayer de tirer des conclusions les plus solides possibles. Maintenant, sur tel ou tel verset, peut-être quelqu'un ne sera pas d'accord avec moi. C'est pas grave, c'est un peu compliqué quand même, l'Apocalypse. Mais le plus important, c'est d'essayer de tirer les leçons les plus importantes de chaque texte. Donc maintenant, on arrive à ce chapitre 10, le petit livre. Et d'abord, que voit Jean? Bon, il voit un ange descendre, c'est pas la première fois d'ailleurs. Bon, c'est pas la seule fois dans l'Apocalypse où un ange descend. C'est assez impressionnant, hein, décrit avec comme enveloppé d'une nuée, un arc-en-ciel au-dessus de sa tête, son visage comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu, et il pose un pied sur la mer, l'autre pied sur la terre. Ben, c'est assez impressionnant. Je rappelle simplement, selon un autre texte que l'on trouve dans les Hébreux, ce que c'est qu'un ange. Un ange, ça fait partie de la création, parce qu'on a notre création de l'univers visible, une autre partie de la création de Dieu, et les anges, selon Hébreux 1, ce sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, envoyés pour venir en aide aux chrétiens. On ne les voit pas, on ne sait pas quand un ange a été présent ou non, la plupart du temps, je pense. Mais en tout cas, ils existent au service de Dieu. Et dans ce texte, il vient avec un petit livre ouvert. Donc ce n'est pas la première fois qu'on parle de livre. On en parlait déjà de ce grand livre avec 7 sceaux à partir du chapitre 5, verset 2. Bon, on va revenir à cela tout à l'heure. Ce grand livre au chapitre 5 a été ouvert par l'agneau qui était digne de l'ouvrir parce qu'il avait racheté à Dieu des personnes de toute tribu, de toute langue, de toute nation. Je vais revenir à cela. Mais avant, on va lire les versets 3 et 4 et 5 et 7 parce qu'il y a une sorte de parenthèse dans la parenthèse, si vous me suivez. Hein? Parce qu'il y avait cette parenthèse entre la 6e et 7e trompette. Il commence à parler du petit livre et puis il y a 2 parenthèses dans ce chapitre. D'abord, et il y a cette parenthèse où 7 tonnerres font entendre leur voix. Et Jean était sur le point d'écrire ce qu'ils avaient entendu. Et Dieu dit non. Celles, donc ça veut dire que ça reste secret à ce que ces tonnerres ont dit, ne l'écris pas. C'est un peu bizarre. Parce qu'on est en train de parler de la révélation de Dieu. Et Dieu révèle quelque chose, et puis il dit à Jean, ne l'écris pas. Je pense que l'on peut apprendre quelque chose de ceci. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous croyons à ce que Dieu a, nous croyons ce que Dieu a révélé. Il y a beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas savoir si Dieu n'avait pas pris l'initiative de nous révéler des choses. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans le prophète Daniel qui résume bien ce que Dieu veut faire. C'est Daniel 2, verset 28, et dit « Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. » Bon, dans le contexte de Daniel, c'était quelque chose qui était révélé au roi Nebuchadnezzar par Daniel, mais le principe est plus général. Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle des secrets. Et c'est pour cela que dans le Nouveau Testament, Pierre peut écrire, par exemple, dans sa deuxième épître, que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce qu'on appelle l'inspiration, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont écrit. De la part de Dieu. Cela, j'espère que je ne vous apprends pas grand-chose. Le christianisme est ce qu'on appelle une foi révélée, parce que ce n'est pas simplement parce que des personnes se sont assises, ont dit « on va réfléchir, on va trouver la vérité », c'est Dieu qui a révélé. Mais, en même temps, il y a un danger, parce qu'on peut dire, à la différence des gens qui sont autour de nous, qui eux ne comprennent rien à rien, nous, on a la révélation de Dieu. Donc on comprend tout à tout. Faux. Et des choses que l'on ne connaît pas. Donc, il faut à la fois être très attaché à l'idée que Dieu révèle des choses dans sa parole, et assez modeste pour dire il y a des choses que Dieu n'a pas révélées. Et même dans l'Apocalypse. Peut-être que si Jean avait pu écrire ce qu'il avait entendu là, on dirait, bah, ça y est maintenant, on a la clé. On comprend l'Apocalypse. Mais c'est scellé. C'est un secret. Il y a plusieurs versets de la Bible, d'ailleurs, qui parlent de cette même idée. Dans Deutéronome, chapitre 29, et le verset 29, c'est le verset 28 dans certaines Bibles, nous lisons ceci. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Lui seul ici. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Notre responsabilité, c'est par rapport à ce que Dieu a révélé, non pas par rapport à ce que Dieu n'a pas révélé. On ne peut pas tout savoir. Nous avons la même idée dans le grand chapitre 1 Corinthiens 13, qu'on lit à tous les mariages, mais souvent on ne va pas jusqu'au bout. Au verset 12, il est écrit que aujourd'hui nous voyons comme au travers d'un miroir, parfaitement, d'une manière obscure, alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Pour le moment, on ne connaît pas comme j'ai été connu, mais un jour, on sera au courant, je dirais, de tout ce que Dieu veut nous dire, ce qui est beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et dans 1 Jean 3, on a la même expression. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. On peut imaginer comment on sera pour l'éternité. On peut imaginer toutes les bonnes choses sur la terre et dire que c'est encore mieux. Mais il manque les mots. Dieu ne veut même pas nous le dire, en quelque sorte. Donc il y a des choses qu'on ne sait pas. Première parenthèse, appel à la modestie. Deuxième parenthèse, c'est les versets 5 à 7, où Dieu dit, de façon, enfin, l'ange jure par l'Éternel, et dit, de façon très solennelle, hein, par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel, la terre, la mer, qu'il n'y aura plus de délai. Et au jour de la voix du septième ange, ce serait la fin, parce que le mystère de Dieu s'accomplirait. Le problème, c'est qu'on a encore 12 chapitres après. On pense que c'est la fin, mais il reste encore 12 chapitres. Donc cela conforte l'idée un petit peu qu'on avait déjà vue, qu'il y a un côté cyclique dans l'Apocalypse. Il arrive jusqu'à 7, et puis il revient pour revoir un petit peu l'histoire du monde de l'autre côté avec un autre éclairage. C'est la fin, le mystère de Dieu s'accomplit. Mais n'oublie pas que dans la Bible, mystère, ça veut dire quelque chose que Dieu a révélé. Et ce que Dieu a révélé, bon, c'est selon les serviteurs, hein, les prophètes de l'Ancienne Alliance, qu'il y aurait un jour, en hébreu, Yom, le jour de l'Éternel qui viendrait, qui serait le jour du jugement. Et en Jésus et par les apôtres, on a beaucoup plus de détails. C'est pour ça que le mystère, en quelque sorte, s'accomplit. Donc, fin de la deuxième parenthèse, dans la parenthèse, et on revient au petit livre. Verset 8. Apocalypse 10 et le verset 8. « La voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la terre et sur la mer. » Alors, quel est ce petit livre ? Que d'encre a été utilisé par différents commentateurs, différents théologiens pour essayer de dire est-ce que ce livre est le même livre qu'au chapitre 5, est-ce que c'est un autre livre, pourquoi c'est un petit livre, l'autre on ne dit pas que c'est un grand livre, mais bon. Je pense que l'allusion du verset 9 va nous aider, parce qu'on demande à Jean de prendre ce livre et de l'avaler. Et il est évident que là, il y a une allusion à un texte de l'Ancien Testament dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 2 et le verset 8. Et je vais lire jusqu'au chapitre 3 et le verset 4. Et en fait, en lisant ce texte, on voit qu'il y a quelque chose qui renvoie au livre du chapitre 5 et quelque chose qui renvoie au livre du chapitre 10. Donc on peut supposer qu'il y a une certaine présomption qu'il s'agit du même livre. Donc je lis à partir du verset 8. « Toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. » Je regardais et voici une main était étendue vers moi et tenait un livre en rouleau. Et il le déploya devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors. Expression qu'on trouve donc dans chapitre 5 et le verset 2, en dedans et en dehors. Des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Et il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche. Il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Alors pourquoi un petit livre à ce moment-là? Bonne question. Satan dit, c'est peut-être le résumé de l'autre livre. Certains disent, c'est un extrait de l'autre livre. Je ne peux pas me prononcer. Mais ce qui est important, je pense, c'est ce qui est central dans cette partie du chapitre 10, c'est que Jean doit le manger, et qu'est-ce qu'il trouve? D'abord que c'est doux, agréable, à sa bouche. Petite référence à quelqu'un qui a mangé une fois dans un restaurant, et le serveur nous a dit pour tout, agréable, c'est agréable, c'est agréable, tous les deux minutes. Donc c'est agréable. Avec une autre prononciation, un peu latino. Agréable à ta bouche, mais amer à tes entrailles. Agréable à ta bouche. Déjà dans Jérémie 15, autre texte, on demande à quelqu'un d'avaler le livre. C'est doux. c'est agréable. Et dans le psaume 19, le verset 103, le psaume le plus long qui parle uniquement de la parole de Dieu, nous avons la parole même, au verset 103, « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » Mais pourquoi amer? Je pense que quand on lit la parole de Dieu, quand on lit la Bible, on est à la fois soulagé, rassuré du fait que Dieu est notre Sauveur. C'est Jésus qui vient, notre Seigneur, notre Sauveur. Mais s'il est le Sauveur, c'est qu'on avait besoin de salut. C'est que nous étions en danger, danger de mort éternelle, parce qu'il y a jugement. Et qu'est-ce qu'il est difficile en même temps de dire, oui, je suis sauvé, mais il y a beaucoup de gens autour de moi qui ne sont pas. Une certaine charge à porter. Et ce n'est pas uniquement la conception des chrétiens. Vous avez bientôt les dialogues Veritas. En même temps, il y aura le Forum Veritas à Lille, et un des intervenants, c'est le philosophe André Comte-Sponville. Donc voici un de ses livres, L'esprit de l'athéisme. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à la foi? Et ça va être intéressant de le lire, je pense, à la lumière de ce texte, doux mais amer. D'abord, il pose la question, quelle est la plus grande force des religions? Il répond, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on dit souvent, de rassurer les croyants face à leur propre mort. La perspective de l'enfer est plus inquiétante que celle du néant. C'était d'ailleurs le principal argument d'Épicure contre les religions de son temps. Elle donne à la mort une réalité qu'elle n'a pas, enfermant ainsi les vivants, absurdement, dans la peur d'un danger purement fantasmatique, l'enfer, c'est Comte-Sponville qui parle, hein, par la Bible, qui vient leur gâter jusqu'au plaisir de l'existence. Un bon commentaire sur ce verset, quelque part. Encore, on n'a pas tout dit. Contre quoi Épicure a enseigné que la mort n'est rien, ni pour les vivants, puisqu'il n'est pas là tant qu'ils vivent, ni pour les morts, parce qu'ils ne sont plus. Avoir peur de la mort, c'est donc avoir peur de rien. Cela ne supprime pas l'angoisse, que nos psychiatres définissent justement comme une peur sans objet réel. C'est l'imagination en nous qui s'effraie, c'est la raison qui rassure. Du néant, à le penser strictement, il n'y a par définition rien à craindre. Donc, à Lille, on va avoir le théologien Alain Dizus de la fac de Vaud qui va débattre avec M. Comte-Sponville sur ces choses. C'est intéressant. Mais, en bas de la page, il met en mots toute cette question de l'amertume. Quoi de plus effrayant que la perspective d'une damnation éternelle? Il est vrai que beaucoup de chrétiens ont cessé d'y croire, enfin, chrétiens dans le sens large. L'enfer ne serait qu'une métaphore. Le paradis seul serait à prendre au pied de la lettre. On n'arrête pas le progrès. Bon, c'est un peu ironique à la fin. Mais je crois qu'il met le doigt quand même sur ce que ces versets veulent dire. À la fois, on reçoit dans la parole de Dieu le message du salut, de la vie éternelle, mais en même temps, on se dit, ah ben, mais elle est perdue, qu'est-ce qu'il en est? On sait bien qu'il y a des versets tels que, par exemple, 2 Thessaloniciens, chapitre 1 et le verset 9. Qui dit que ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Je crois qu'il faut regarder cela en face quand même. Il y a quelques années, on était en fait chez mes beaux-parents, et un soir, et ma belle-mère ne sentait pas bien, on est venu, on l'a amenée à l'hôpital, et donc à 4 heures du matin, on a reçu un coup de fil, elle était décédée. Les parents de ma femme ne sont pas chrétiens. Il a fallu que devant moi, que ma femme me regarde et voulait le dire pour me dire que je sache, ma maman n'est pas auprès de Dieu, elle est perdue. C'était difficile à dire. Mais il fallait qu'elle le dise pour vivre dans la réalité. Bien sûr, peut-être que Dieu, dans les derniers moments de sa vie, l'avait sauvée. On ne sait pas. Mais elle a dit que je sache. Et on a été très surpris, dans les semaines qui ont suivi, du nombre de chrétiens bibliques qui nous disaient « Oui, il ne fallait pas parler comme ça. Il fallait pas, il fallait... Tout, Dieu est bon. Bien sûr qu'il y a de l'espoir. » Oui, mais on ne voyait aucune raison. Aucune raison. Et de regarder ça en face n'est pas chose facile. N'est pas chose facile. Parce que et c'est là justement cette parole amère dans les entrailles qui en plus on doit annoncer au verset 11. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Il fallait le dire, il fallait l'annoncer. On ne peut pas dire à quelqu'un, si tu crois au Jésus, tu seras sauvé, sans quelque part que la contrepartie existe, mais si tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. Et comment ça n'a pas de sens? On peut tourner autour le sens du mot sauvé, mais sauvé c'est un danger. Si on tombe dans la Seine et on ne sait pas nager, on peut espérer que c'est à côté d'un de ces endroits, il y a des bouées de sauvetage qu'on va jeter pour que l'on soit retiré du danger, autrement dit, sauvé. Mais si on n'y tient pas, ben, on se noie. Donc voilà le petit livre donné à Jean, qui n'est pas très facile à accepter, parce qu'on vit dans ce monde avec la joie et le chagrin en même temps. Deuxième partie de cette parenthèse, ce sont les deux témoins. Là, on passe au chapitre 11. C'est une nouvelle vision, si on veut, un nouveau sujet, différent. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que Jean reçoit un roseau. En fait, c'est pour mesurer. Il doit mesurer le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent. Alors pourquoi on veut mesurer quelque chose? C'est pour voir les limites. Pour savoir quelle est la taille de cet endroit. Ou, s'il s'agit de ceux qui adorent, quel en est le nombre. Et dans le Nouveau Testament, chaque fois qu'on parle du temple dans ce sens-là, le temple veut dire l'ensemble des chrétiens. C'est l'Église. On est le temple du Saint-Esprit. C'est dans 1 Corinthiens 3, verset 16, 2 Corinthiens 6, verset 16. Donc, en quelque sorte, Jean doit mesurer de la part de Dieu qui font partie de l'Église. Ou, si vous voulez, tel qu'on l'a déjà vu au chapitre 7, ceux qui sont marqués du sceau, parce que, pour le dire en mots tout simples, dans 2 Timothée 2,19, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur sait. Nous, on ne sait pas. Et qu'est-ce que l'on voit? C'est que, à Jérusalem, bon, à l'époque, il y avait le temple, avec un parvis extérieur. Les non-juifs avaient le droit de pénétrer dans le parvis extérieur, ça fait partie de cet ensemble du temple. Et là, fallait pas le mesurer. Parce qu'en fait, ce parvis était donné aux nations, donc c'est les goyim, les non-juifs, les non-chrétiens, les païens, qui vont fouler cette ville pendant 42 mois. Alors, vu de l'extérieur, le touriste qui vient à Jérusalem à l'époque de l'Apocalypse, il voit beaucoup de personnes qui tournent dans le temple, il voit qu'il y a beaucoup de monde. Lui, il ne fait pas la différence. Il ne sait pas qu'il y a la vraie Église et d'autres personnes qui se mêlent à cette Église. À l'extérieur, on ne voit pas la différence. Mais Dieu le sait. Et Dieu le permet même. Il a été donné. Encore une fois, on a vu ça la semaine dernière. La phrase, il a été donné. Alors, il était donné de fouler l'extérieur, mais il y a deux limites. D'abord, ce n'est pas le sanctuaire même. Et le sanctuaire, c'est la présence de Dieu. Et deuxièmement, la limite, c'est que pendant 42 mois, il y a plusieurs reprises dans ce texte, dans l'Apocalypse, il y a une période similaire, on parle de 42 mois, on parle de 1260 jours, si vous faites le calcul, c'est à peu près ça, on parle d'un temps, des temps et la moitié d'un temps, on est à peu près dans la même symbolique, ce qui renforce l'idée d'ailleurs qu'il y a un certain côté cyclique de ces chapitres. Mais pourquoi 3,5? Bon, c'est exactement la moitié de ce chiffre 7 qui revient continuellement tout au long de l'Apocalypse. Et 3,5, ça veut dire que c'est loin de la perfection, c'est que la moitié. Donc c'est une période qui n'est pas parfaite, c'est une période courte en quelque sorte. Dieu va permettre qu'il y ait peut-être de la difficulté, de la persécution. Et je rappelle ce que j'avais dit la semaine dernière, l'Apocalypse a été écrite pour l'Église persécutée, pour l'encourager. Donc, dans ce contexte, on parle de deux témoins. Donc, qui sont ces deux témoins? Là encore, il y a différentes idées. Mais je crois que la première chose à dire, c'est que au chapitre 1, on a déjà vu ce mot témoin. Et qui était le témoin fidèle? Ben, c'est Jésus. C'est Jésus. Apocalypse 1, verset 5. Jésus est le témoin fidèle. Donc, ces deux témoins, en quelque sorte, vont suivre dans les traces de Jésus. On voit aussi que ces témoins sont revêtus de sacs. Bon, c'est une sorte de vêtement rude qu'on mettait en signe de regret, de repentance. Et ces deux témoins ne s'enflent pas d'orgueil, mais acceptent de se repentir, de mener deuil pour eux-mêmes, peut-être pour d'autres, pour la situation du monde. Alors, qui sont ces deux témoins? En fait, pour essayer de comprendre, comme je l'ai dit au début de la soirée, on n'a qu'une seule façon de faire, c'est de regarder le texte, de regarder les allusions et essayer de comprendre. Et il me semble qu'en fait, il y a deux lignes de pensée ou deux interprétations possibles. Et si on a deux, il doit y avoir une raison. La première interprétation, c'est qu'il s'agit de Moïse et Élie. Pourquoi on dit ça? Bon, il y a plusieurs raisons. D'abord parce que à la fin de notre Ancien Testament, le tout dernier livre, c'est le livre de Malachie, et les trois derniers versets de Malachie, et on peut dire qu'après, c'est la pause, jusqu'au Nouveau Testament, on parle de Moïse et Élie. Je le lis. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Si vous avez la Bible, vous pouvez vous poser des questions pourquoi j'ai lu le verset 5 deux fois. Parce que j'ai remarqué. C'est parce que dans la Bible, en hébreu, on imprime de nouveau le verset 5 après le verset 6, parce que les Juifs ne voulaient pas que cette ancienne alliance termine avec une telle versée de destruction terrible, que de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Regardez dans la Bible en hébreu, si vous lisez, vous allez voir, il réimprime le verset 5, pour terminer avec une note un petit peu plus positive. C'est intéressant. Donc, Moïse et Élie sont deux témoins. Et on les retrouve de nouveau sur la montagne de la Transfiguration, par exemple. Et on les retrouve de nouveau dans ce chapitre 11, par allusion, le verset 6, par exemple. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, ces deux témoins, afin qu'ils ne tombent point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Là, c'est Élie face au roi Achab. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Alors ça, c'est Moïse. Donc, il y a des raisons pour croire, dans un premier temps, que les deux témoins, c'est Moïse et Élie. Mais, il y a une deuxième interprétation possible, c'est qu'il s'agit de l'Église. Pourquoi ? Encore, il faut chercher dans l'Ancien Testament, cette fois-ci dans Zacharie. Et dans Zacharie, chapitre 4, nous avons une allusion, on ne peut plus claire, à Apocalypse 11. Zacharie 4 et le verset 11. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qui signifie? Je dis, non, mon Seigneur. Il dit, ce sont les deux oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Donc, déjà, on a référence à deux oliviers et un chandelier. Bon, il y a deux chandeliers dans l'Apocalypse. Mais si vous vous rappelez le premier chapitre d'Apocalypse, chapitre 1 et le verset 20, on dit que les sept étoiles sont les anges de cette église et les sept chandeliers sont les sept églises. Donc, si on admet pour le moment que ces deux témoins sont l'église, on peut dire, mais pourquoi deux ? Alors, il est question donc dans Zacharie 4 de deux oints, donc deux personnes qui ont reçu une onction d'huile, et ces deux personnes, dans le contexte de Zacharie, c'est Zorobabel et Josué. Donc il est question ailleurs. Et Zorobabel, c'était le chef politique, et Josué, c'était le grand sacrificateur. Donc les deux oints, c'est le chef politique, le roi, si on veut, et c'est le sacrificateur. Et dans le Nouveau Testament, on trouve que au moins deux fois, on parle de l'Église comme étant d'abord un royaume de sacrificateurs. C'est dans Apocalypse même, hein, quelque part, chapitre 5, je pense, voilà ça, et le verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et l'autre référence, dis-moi de vous donner beaucoup de versets, pour faire c'est bien de venir avec un stylo et du papier. 1 Pierre 2 et le verset 9, vous au contraire, vous êtes un sacerdoce royal. Donc un royaume et les sacrificateurs ont un sacerdoce royal. Donc les chrétiens remplissent en quelque sorte ces deux rôles, les rois, enfin, qui règnent sous le grand roi, et puis des sacrificateurs qui offrent des sacrifices de louange, c'est-à-dire de la confession du nom de Jésus, selon Hébreu. Mais, malgré tout, pas tout seul. Parce que, pour cela, Il y a les deux oliviers, en même temps que les deux chandeliers. Les chandeliers, c'est l'Église, hein, on l'a vu. Et les oliviers, qui donnent l'huile d'olive. Et l'huile d'olive, c'est un symbole du Saint-Esprit. Et justement, dans Zacharie, chapitre 4, verset 6, donc quelques versets avant les versets que j'avais lus, on lit le verset que vous connaissez certainement, vous l'avez certainement chanté, beaucoup d'entre vous. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc on peut dire que dans un deuxième temps, les deux témoins, c'est l'Église. Alors pourquoi Élie, Moïse et Élie, et puis l'Église? Je pense qu'on a un phénomène que l'on trouve souvent dans des textes prophétiques, apocalyptiques, un télescopage des événements, où une chose mène à une autre, on ne voit pas trop la frontière, mais bon, avec le recul, on le voit. Où Moïse et Élie sont des modèles de témoignage pour l'Église qui est venue ensuite. Parce que par la suite, de ce texte, il semble que l'on parle de l'Église, à partir du verset 7, et on voit que même si l'Église, c'est le peuple de Dieu, il connaît chacun, on porte son sceau, on l'a vu, en même temps, l'Église n'est pas toute puissante. Elle est appelée à souffrir, à être martyrisée, et même la bête qui monte de l'abîme, donc les questions chapitre 9, va les vaincre et les tuer et laisser les cadavres sur la place de la grande ville, qu'on nomme symboliquement Sodome, Égypte et même Jérusalem, là même où leur Seigneur a été crucifié. Donc c'est la cité des hommes qui s'organise sans Dieu, avec la religion détournée à Jérusalem, avec l'immoralité Sodome, et avec l'esclavage en Égypte. Et par la suite, vous allez voir, même on parle de Babylone, qui est aussi une sorte de référence à la cité des hommes qui se construit sans Dieu. Et qu'est-ce qu'ils sont contents? Ils s'envoient des cadeaux les uns les autres. Parce que, pourquoi? Ils se réjouissent, ils sont dans l'allégresse. Parce que les deux prophètes, donc les deux témoins, ne les tourmentent plus. Je pourrais reprendre le livre de Constantville. Il dit, après la mort, pas de peur, c'est fini, vivons notre vie. Tant qu'on n'est pas mort, on n'est pas mort. Quand on est mort, on est mort. Donc, on profite de la vie. Et toute autre peur, c'est de l'angoisse, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et les deux témoins disent, il y a un jugement. Il y a quelque chose après la mort. Quand on est mort, on n'est pas mort. On est appelé devant le jugement de Dieu. Mais ça les tourmente. Pas très rassurant, les chrétiens qui disent cela. Donc ils étaient tellement contents quand ils pensaient que l'Église était finie. Mais au bout de 3 jours et demi, un temps très court, l'esprit de vie vient, ils reprennent vie. Ils entendent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Je pense qu'il est question là des martyrs qui montent. Et à cette heure-là, il y a le début d'un jugement. Et c'est le second malheur qui est passé. Et on arrive donc à la fin de ce chapitre. C'est la 7e trompette. Et cette fois-ci, on entend, verset 15, le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. J'ai l'impression que là, on arrive à la fin. Vous allez voir la semaine prochaine, on revient un petit peu en arrière. Et qu'est-ce que l'on voit? Des 24 vieillards, déjà question, d'autres êtres créés par Dieu, tombent face contre terre, adorent Dieu, en disant, nous te rendons grâce Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était. Dans les chapitres suivants, chaque fois c'était qui est, qui était et qui vient. Alors là, on rentre dans l'éternité. Il n'y a plus et qui vient. C'est la seule fois dans les Écritures que je sache qu'on a qui est et qui était. C'est la troisième partie qui vient. Car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. et les nations se sont irritées. Allusion au psaume 2, quand les nations s'irritent et se mettent en colère contre Dieu. Le temps passe. Je vais terminer avec le verset 19. Au début de ce chapitre, on avait parlé du temple. Le temple sur la terre. À la fin de ce chapitre, c'est le temple de Dieu dans le ciel. Donc on a fait toute une progression. Et le temple de Dieu dans le ciel est l'original. Le temple de Dieu sur la terre, c'est la photocopie. Ce n'est pas la vraie. C'est pour nous aider à comprendre que le temple, c'est là où il y a la présence de Dieu. La présence de Dieu, ce n'est pas éternellement sur cette terre qui est appelée à disparaître. Et j'aimerais, pour apporter un petit commentaire sur ce verset 19, lire deux, trois versets dans Hébreux pour clore cette méditation, cette réflexion sur l'Apocalypse. D'abord dans Hébreux 10 et le verset 31, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Pas mal parlé de jugement ce soir, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. On essaie toujours d'édulcorer Dieu. S'il y a une expression que je déteste, mais d'une parfaite haine, comme dirait le psalmiste, c'est l'expression « le bon Dieu ». Parce que c'est une façon de le ramener, de le faire plus petit. Dieu est Dieu trois fois saint. Une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et le deuxième texte, c'est dans le chapitre précédent, dans Hébreux 9, à partir du verset 11, où l'auteur de cette lettre explique la même chose par rapport au temple sur la terre et le temple au ciel. En disant que Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. Le tabernacle, c'est une autre façon de dire le temple. Hein, c'était le premier temple. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il y est entré, une fois pour toutes, dans ce lieu très saint, comme le sacrificateur entré dans le lieu très saint du temple, non avec le sang de bouc et de veau, comme dans l'Ancien Testament, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc là, on avait parlé dans l'Apocalypse, du lieu où Jésus était crucifié, et c'était crucifié, c'était pour nous racheter justement de ce jugement. Et si Comte Sponville a parlé du fait qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur après la mort, moi je dis oui, mais pas pour la raison que lui il donne. Moi je dis, on n'a pas à avoir peur parce que Jésus est mort pour nous, nous a pardonné, nous a racheté, à purifier notre conscience des œuvres mortes pour que nous puissions servir éternellement le Dieu vivant. Il ne faut pas avoir peur de la mort si on est chrétien, parce que Jésus nous a rachetés. Je pense que ce verset est un bon commentaire, parce que on m'a découpé un petit peu l'Apocalypse, donc j'avais chapitre 10 et 11 ce soir. On part pas forcément de la rédemption, mais je crois qu'il serait faux de le lire sans en arrière-plan la rédemption qui est en Jésus-Christ et qui est à laquelle on fait allusion par le temple qui est au ciel où Jésus se trouve maintenant et où il règne. Je ne vous connais pas tous, je connais certains d'entre vous. Vous ne connaissez peut-être pas non plus, mais je tiens à dire à la fin de ce soir que s'il y a quelqu'un qui aimerait me parler encore de ce fait qu'il y a le jugement, mais le pardon, n'hésitez pas. Si ce n'est pas moi, avec quelqu'un d'autre ici qui est un des responsables de cette soirée. Trop important de ne pas venir chercher en Jésus le refuge et le salut face à cette réalité du jugement après la mort.